Bonjour Kevin, comment ça va?
Ça va bien, Hugo, et toi?
Ça va bien aussi, merci. Bienvenue donc nouvel épisode du podcast Rembobinage, votre rendez-vous cinéma et télé. On poursuit mon cher. En fait, on avait la semaine dernière, c'était notre épisode de enfin notre épisode de rattrapage sur les films donc qui étaient sortis fin 2023, début 2024. Juste avant ça, on avait fait Tu ne sauras jamais de Robert Aubert, donc un cinéma québécois. On poursuit notre lancée donc de cinéma d'ici cette semaine. Qu'est-ce qui est à l'affiche, Kevin?
On a vu le film La fonte des glaces de François Péloquin.
Effectivement, La fonte des glaces, François Péloquin, réalisateur que je ne connaissais pas. Est-ce que tu avais vu toi, son premier film qui était Le bruit des arbres?
Non, je ne l'avais pas vu, mais j'ai entendu dire que c'était intéressant. Mais c'est ça, c'est ce qui est particulier, c'est que ça date, je crois, de 2015 ou quelque chose du genre.
Oui,
Fait qu'il y a
oui.
quand même un gros laps de temps entre les deux films, là.
Ben, semble-t-il qu'il a travaillé sur un autre projet qui s'appelle Chantal, 2021, qui était donc à la fois scénariste, réalisateur, un peu comme dans ce cas-ci, La Fonte des Glaces. Mais bon, François Péloquin, moi, je le découvre avec donc justement La Fonte des Glaces, qui est à l'affiche. Ben, quand cet épisode-ci va sortir, ça va faire une semaine, je pense, que le film est à l'affiche, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est sorti vendredi dernier.
Voilà, exactement. Donc, ben on se lance là-dedans. Évidemment, le timing est bon. On a une espèce de drôle d'hiver cette année. Drôle de printemps est arrivé, il est reparti, là, il semble être revenu. Peut-être que bientôt, on va faire moins 25 avec 30 cm de neige. On n'a plus aucune certitude. C'est le chaos. Bref, voilà. Donc, ce film sort, bon, évidemment, au printemps. La Fonte des Glaces, avec Christine Beaulieu dans le rôle principal. Christine Beaulieu, qui est connue notamment pour comme comédienne au théâtre, qui a fait J'aime Hydro, que j'ai vu là il y a peut-être un an maintenant, peut-être un petit peu plus. Est-ce que tu avais déjà vu cette pièce-là, Kevin?
Non, je vais très peu au théâtre.
OK. Ben, écoute, c'est du théâtre documentaire, c'est presque un film, en fait. Puis même, je pense qu'il y avait des extraits vidéo dans mon souvenir, des extraits sonores aussi. Donc, c'est plus. C'est presque une installation multimédia plutôt qu'une pièce. Mais c'est très intéressant, justement, sur Hydro, sur notre rapport comme Québécois à cette société d'État, pour le meilleur et pour le pire. Donc, si jamais tu as l'occasion, si jamais, évidemment, les gens qui nous écoutaient, vous avez l'occasion de voir ça. Ça fait plusieurs années qu'il y a différentes versions. La dernière fois, c'était quand Sophie Brochu était présidente. Donc là, c'est Michael Sabia, peut-être que. Il va y avoir un nouvel ajout à cette pièce-là, qui dure quand même déjà 3 heures. Donc, peut-être que ça va être rallongé. Donc, avec Michael Sabia, le retour du nucléaire au Québec, on verra Fitzgibbon qui nous dit de partir nos lave-vaisselle à minuit. Voilà. Donc, peut-être à voir. Mais bon, aujourd'hui, c'est ça. On parle de La Fonte des Glaces, bien entendu. Donc, Christine Beaulieu qui joue le rôle principal dans ce drame. Je vais peut-être nous résumer, un peu comme à l'habitude, je vais nous résumer l'intrigue. Puis après ça, évidemment, on pourra parler de notre appréciation ou pas, dépendamment si on aimait ça ou pas, notre évaluation du film. Donc, La Fonte des Glaces, Christine Beaulieu joue Louise Denoncourt, qui est une sorte d'intervenante. Accompagnatrice, travaille dans une prison. On ne dit pas quelle prison, mais on comprend que c'est une prison fédérale. Donc, pour des gens qui sont condamnés à des peines de plus de 2 ans. Dans la région de Montréal, d'ailleurs, il y a des plans. Il y a quelques occasions, ils sont sur le fleuve. Ils font du canot sur les glaces. Donc, bon, sur les glaces. Donc, dans le fleuve, mais il y a quelques glaces encore. Donc, dans le fleuve Saint-Laurent. Le personnage de Christine Beaulieu s'occupe d'un programme qui est réservé à un petit groupe de détenus qui sont tous, je pense, des meurtriers. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de les réhabiliter, d'éviter des récidives et d'éviter donc que ces gens-là retournent en prison ensuite, retombent dans les affres du crime et de la violence. Et on nous précise d'ailleurs que cette unité-là a beaucoup de succès. Il n'y a aucune récidive depuis que ce programme-là existe. Sauf que ça entraîne de la jalousie, puis ça va un peu à l'encontre de l'idée de punir les détenus, donc la coercition, puis tout ça. Donc la prison à l'ancienne, c'est-à-dire t'as fait un crime, on te punit, voilà. Et donc dans le cadre de ce programme-là arrive le deuxième personnage principal, si on veut, l'opposé de Christine Beaulieu, qui s'appelle Marc Saint-Germain, joué par Lothaire Buteau, et on aura certainement l'occasion de parler de Lothaire Buteau dans quelques minutes. Lothaire Buteau qui a assassiné au moins une personne qui était un tueur à gages. Et donc, arrive dans cette prison-là, il lui reste 4 mois avant de sortir de prison. Je pense qu'il a purgé 10 ans d'emprisonnement ou quelque chose comme ça. Et il va y avoir toute une dynamique là entre Louise Denoncourt, Marc Saint-Germain. À travers ça, il y a le père de Louise Denoncourt aussi qui est impliqué. Il y a d'autres détenus là, qui ont des relations plus ou moins tendues entre eux puis avec bon le nouvel arrivant. Bref, voilà, donc ça se passe, c'est un milieu très fermé, c'est presque un huis clos, en fait, sauf à quelques exceptions près. Mais c'est ça, donc un drame en milieu carcéral, voilà, avec une peut-être une lueur d'espoir à la fin, en tout cas, c'est tout est relatif, peut-être. Dis-moi, Kevin, est-ce que tu as aimé la Fonte des glaces?
Oui, j'ai aimé ça, avec peut-être certaines réserves, on pourra en parler, mais non, c'est un film intéressant, surtout dans les idées qui sont véhiculées. Aussi, tu sais, tu mentionnais Lothaire Buteau et Christine Beaulieu, qui sont des super bons acteurs, puis leur dynamique est le fun à voir. Mais c'est ça, quand on viendra peut-être à parler un peu de nos bémols, il y a des petits trucs qui font que je trouve que c'est un bon film, oui. Mais peut-être pas un chef-d'œuvre.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des. J'écoutais le film tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre, puis j'aimais ça. Il y a des plans intéressants, il y a des idées intéressantes du côté du scénario. Je trouve, par contre, que c'est pas un film qui est suffisamment abouti en un certain sens.
Mm-hmm.
Puis donc, ça, évidemment, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Écoute, sautons pieds joints dans la question de la distribution. Commençons avec Lothaire Buteau, qu'on a vu, ben là, ça commence à faire un certain temps, mais qu'on avait vu dans Jésus de Montréal à l'époque, et qu'on n'a pas fait tant de films que ça. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la performance de Lothaire Buteau dans ce film-ci?
Ah, bonne question. J'ai trouvé qu'il était bon, qu'il était définitivement captivant, super imprévisible. Des fois, il est comme vraiment plus, je sais pas, comme un peu, pas nécessairement violent, mais on sent le côté menaçant. Mm-hmm. À d'autres fois, il est vraiment à fleur de peau, vulnérable. Souvent, il est très bizarre, très étrange. Et comme tu disais, Lothaire Buteau, ça fait, dans mon cas en tout cas, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu à l'écran. T'sais, j'ai vu évidemment Jésus de Montréal à l'époque, j'ai vu Le Confessionnal, quelques autres films qui datent quand même. Mais je sais qu'il a joué, je pense, aux États-Unis, au Canada anglais, ces dernières années, mais rien que j'ai vu, je crois. Donc, on dirait que c'est comme si je suis comme plus sûr qu'est-ce qui est la personne et qu'est-ce ouais. qui est le jeu d'acteur, parce que c'est ça, comme je disais, il est tellement bizarre que je me demandais soit que c'est un super bon acteur puis qu'il a créé de toutes pièces cette espèce de gestuelle et de façon d'être qui est vraiment, qui ressemble à rien, ou je sais pas si c'est lui qui est un peu introverti puis pas super à l'aise en société, mais c'est en tout cas, c'est vraiment, je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire là.
Oui, tout à fait, puis j'avais un peu la même réflexion, c'est-à-dire moi j'ai vu aucun de ses films, je le connais de nom, je sais qu'il a joué dans Jésus de Montréal, que j'ai pas vu malheureusement encore, que c'est sur ma liste de choses à voir, un peu comme Mon oncle Antoine, des choses et des classiques québécois,
mm-hmm.
Que c'est sur ma liste, mais bon, que évidemment je préfère écouter des films de Pau-Pau, puis mais c'est ça, j'avais lu une entrevue, je pense que c'était dans Le Devoir, avec Lothaire Buteau, en disant, tu sais, c'est pas nécessairement un retour, mais je pense que je regarde sa liste de films, justement, du coin de l'œil. Et comme tu dis, il a beaucoup travaillé au cinéma anglais, moins au Québec. Et donc, peut-être qu'effectivement, on l'a moins vu, on l'a peut-être moins vu depuis presque 30 ans maintenant, tu sais. Donc, c'est un peu comme un personnage déjà en soi. Tu sais, bon, déjà, ça s'appelait Lothaire. non, mais c'est pas du tout une critique, évidemment, mais c'est un nom qui sort de l'ordinaire. Le personnage, je pense qu'il a des yeux, je pense que le terme, c'est verron, en tout cas, un œil bleu, un œil vert, ou quelque chose de... Mon œil brun, un œil vert, ben bref, il y a deux, les, ces deux yeux sont pas de la même couleur, donc physiquement, il, c'est particulier. Dans ce film-là, c'est un homme qui est émacié, il a les cheveux longs, puis il est toujours un peu assis, comme si justement, tu sais, c'est un tueur à gage, c'est-à-dire... Il est pas, il est physiquement imposant, pas parce qu'il est bâti, mais parce que justement il est maigre, mais t'as l'impression qu'il peut réagir tout immédiatement, puis que c'est le gars qui va jamais hésiter au moment de tirer dans la tête, parce que là t'as un contrat sur ta tête, puis pour lui c'est un job. Donc dans ce film là c'est ça, c'est il y a vraiment cet aspect là de est-ce qu'il est honnête? Est-ce que c'est une magouille? Est-ce que, bon, il commence peu à peu à se livrer, tu sais? Le programme, c'est ça, ça implique beaucoup de discussion, puis de s'ouvrir, puis de revenir sur ses crimes, puis tout ça. Et lui, on sait pas trop s'il est honnête, c'est ça, si vraiment il essaie juste de dire, regarde, il me reste 4 mois, je fais ce que je veux, puis je vais te mentir en pleine face, ou... Je retrouve peut-être j'essaie peut-être de retrouver un semblant de normalité. Et bon, évidemment, on ne vous donnera pas du vulgachard, mais tout le long du film, il y a ça. Et cette performance-là, à un moment donné, c'est ça, tu ne sais pas si c'est lui un peu qui se cherche peut-être comme personnage ou si c'est le personnage qui est comme ça. Et j'ai eu de la misère un peu à accrocher dans ce sens-là. Je sais pas toi si t'as vécu un peu la
même. Oui, ben c'est ça. Puis un autre détail que je voulais mentionner, c'est juste dans la façon qu'il parle.
Oui.
Il y a vraiment des moments dans le film que j'avais de la difficulté à comprendre les dialogues de la façon qu'il parlait. Puis ça revient à mon point que est-ce que c'est l'acteur qui prononce mal ou c'est vraiment un choix artistique que de jouer un personnage qui s'exprime pas très bien. Fait que, tu sais, la ligne est mince, puis j'étais pas toujours sûr si j'étais supposé de bien le comprendre.
Oui, ben, généralement, bon, au cinéma québécois, moi, d'habitude, j'écoute des films avec des sous-titres. Le cinéma québécois, d'habitude, ça va. Je suis capable de suivre sans trop de problèmes. Puis c'est pas une question que de je comprends pas l'accent ou quoi que ce soit, mais bref. Mais là, c'est ça. Moi aussi, 3 ou 4 reprises, je me dis qu'est-ce qu'il vient de dire? Il est-tu en train? C'est ça, c'est-tu le gars amoché par la vie de tueur à gage qui a de la misère à exprimer ses émotions, puis là, ça se bouscule dans lui, puis là, ça sort un peu n'importe comment. Ou est-ce qu'effectivement, c'est l'acteur amoché un peu par la vie qui. Ça se. T'sais, je pense pas que ça gâche le film comme tel, mais effectivement, on se pose un peu la question de savoir si c'est le personnage ou c'est l'acteur. Mais bon, c'est ça. Ce sont des choses qui arrivent. Du côté de Christine Beaulieu, t'as pensé quoi de son jeu?
Je l'ai trouvé vraiment bonne, puis c'est un peu l'opposé. C'est que Christine Beaulieu, on la connaît quand même beaucoup. On l'a vu souvent à la télévision, au cinéma, tu disais qu'elle joue beaucoup au théâtre aussi, puis même dans les médias, elle donne souvent des entrevues, puis moi, j'ai regardé sur Tout.tv, elle avait une émission de rénovation, puis j'ai suivi ça, fait que tu sais, je connais bien la personne médiatique, du moins, et ce qui est intéressant, c'est que souvent dans ses rôles, en tout cas dans ce film-là, on sent qu'il y a comme une harmonie entre qui elle est et qui elle joue, parce que ça a l'air d'être une personne qui est vraiment bienveillante, qui est très engagée socialement, humaniste, tout ça. Puis, dans ce cas-ci, c'est ça, peut-être parce qu'on la connaît plus, c'est vraiment en accord avec ce qu'on suppose de la personne, de l'actrice. Puis je trouve ça super le fun de la voir à l'écran, peu importe le contexte, parce que justement, je reviens vraiment au mot la bienveillance. Mm-hmm. Puis c'est vraiment peut-être le thème central du film que on sent que en prison, dans les autres ailes, les autres gardiens de sécurité ou gardiens de prison, en fait, tu sais, sont plutôt dans la brutalité, puis la punition, puis tout ça, puis tu sais, ils méprisent les prisonniers à tort ou à raison, tandis que elle est vraiment bienveillante, elle veut leur parler, communiquer, essayer de comprendre qui ils sont, puis son but, c'est vraiment pas de leur taper sa tête, là, fait que c'est quand même intéressant. Certains diraient que c'est naïf, mais c'est, je dirais pas nécessairement ça, c'est peut-être juste idéaliste de vraiment croire que les gens peuvent changer ou qu'ils ont droit à une deuxième chance, là.
Mais je t'avoue, moi, j'ai jamais été confronté à des meurtriers. je sais pas à quel point. Je pense qu'il y aurait quand même pas une peur, mais tu as beau dire, OK, effectivement, moi, je suis tout à fait en faveur de la réhabilitation. De toute façon, tu laisses quelqu'un en prison, ça fait juste coûter de l'argent à la société, puis cette personne-là est plus fonctionnelle après ou elle retombe dans la criminalité. Mais j'avoue que tu sais, tu me dirais, OK, on se connaît. Mettons qu'on se connaît pas, puis tu te présentes, Kevin Laforêt, puis éventuellement, j'apprends que bon, t'as tué quelqu'un, puis t'as fait ta peine de prison, puis t'as purgé ta peine, mais t'as quand même tué quelqu'un. c'est quand même le pire crime que tu peux commettre selon les valeurs humaines, en tout cas en général. Mais c'est ça, tu parles d'une naïveté, d'un optimisme, certainement. Je pense que oui, effectivement, elle affiche un optimisme, autant elle que son personnage. Puis bon, ça rend peut-être à classer dans la catégorie, l'actrice ou l'acteur joue son propre personnage un petit peu. Et d'ailleurs, parenthèse, je pense que ça fait partie de mes bémols aussi, parce que bon, on va arriver à ce qui se passe peut-être plus tard dans le film, puis vers la fin du film. Mais c'est ça, j'ai aimé cette bienveillance-là, puis j'ai aimé cette idée-là d'accompagner les gens. Puis oui, effectivement, bon, elle joue... elle est optimiste, mais je pense pas qu'elle soit si naïve que ça, parce que elle sait qu'elle est avec des meurtriers, puis elle sait qu'elle est en prison, puis elle sait que, tu sais, oui, son programme fonctionne, mais tu sais, elle sait que c'est des gens qui ont commis de l'irré, tu sais, quelque chose de terrible. Donc, tu sais, elle se dit pas, on va se prendre par la main puis on va faire des chansons. C'est non, regarde, on va passer à travers ça ensemble puis on va vous accompagner là-dedans. Mais effectivement, tu as un exemple, tout début du film, il y a une scène où deux détenus de son aile, en guillemets, les tensions montent au dîner puis là, ils arrivent pour se taper dessus. Puis là, une sirène d'alarme retentit, puis t'as les gars de l'anti-émeute, pratiquement, t'as les gardiens de prison qui arrivent avec des casques, des boucliers, des matraques, même pas 30 secondes. Donc, elle sait qu'elle est dans un milieu où la violence peut arriver immédiatement, mais c'est ça, elle prend quand même le risque d'être bienveillante, puis elle fait l'effort d'être ouverte aux autres, puis qu'effectivement, dans ce sens-là, c'est un personnage qui est très intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de Marc Bellin qui joue son père?
C'est peut-être le personnage le moins intéressant, du moins dans les principaux. C'est là qu'on tombe dans l'autre trame narrative, parce qu'il y a toute l'histoire de son aile de prison, puis la réhabilitation, puis tout ça. Mais en même temps, il y a un petit côté thriller dans le film que Christine Beaulieu, son personnage... Sa mère est décédée il y a un certain nombre d'années et possiblement que le personnage de Lothair Bluteau, le tueur à gages, serait responsable de la mort de sa mère. Donc, il y a comme un peu une espèce d'enquête qui se trame là-dedans, qui a beaucoup rapport avec le personnage de Marc Bellin, qui est le père de Louise. Puis lui, c'est un ancien policier, puis sur son mur, il y a comme plein de documents, puis de photos, tout ça, qu'on sent que même peut-être une dizaine d'années plus tard, il a jamais décroché de son enquête personnelle sur pour retrouver la personne qui a tué sa femme, parce que selon lui, c'était pas un accident, c'était un meurtre. Puis toute cette partie-là du film, c'est comme... Je comprends le but de faire un film que... Tu sais, c'est beau faire un film humaniste, social, tu sais, en ayant une partie un peu plus policière, thriller, tu sais, il y a un suspense qui peut se créer un peu, puis ça fonctionne à certains égards, mais je sais pas, on dirait que c'est un peu superficiel, toute cette partie-là, Puis pour répondre à ta question, le personnage de Marc Bellan, il est pas très très développé, tu sais. Mm-hmm. Tout ce qu'on sait de lui à peu près, c'est qu'il est obsédé à trouver la cause de la mort de son épouse, puis c'est à peu près tout, là.
Oui, effectivement, c'est un peu... c'est drôle parce que même s'il est obsédé, il a l'air d'être obsédé, mais juste assez. Tu sais, parce que généralement, bon, on va pas tomber dans les clichés nécessairement, c'est pas une question de théorie de la conspiration, de quoi que ce soit, mais... Tu sais, il est obsédé, il y a l'espèce de panneau avec du liège chez eux, puis là, il y a les photos, puis tout ça. Puis bien en évidence, évidemment, tu as la photo du personnage de Lothar Buteau, tu as quelques années plus tôt. Bon. Là, ça donne quel hasard que ce personnage-là se ramasse dans l'endroit où la fille du policier travaille.
Ouais.
OK, ça peut arriver, puis il fallait effectivement peut-être intégrer ça si tu veux avoir ces deux trames narratives-là qui s'entrecroisent. Mais c'est ça, il est pas... Il est obsédé, mais il est pas obsédé maladif. Puis je me dis, si effectivement, ça fait des années que tu essaies de trouver le meurtrier de ta femme, en étant persuadé qu'envers et contre tous que ta femme était assassinée, peut-être parce que toi, on visait toi, puis finalement, c'est ta femme qui est morte. Il est comme pas assez intense, je sais pas. Il était pas assez... puis je pense que c'est le... C'était mon problème avec le film en général, c'est il y a deux trames narratives et malheureusement, aucune n'est assez développée pour vraiment aller chercher, en tout cas, vraiment dire, c'était « Ah oui, ce film-là, je m'en souviens parce que tel truc d'enquête ou tel truc de hockey, réhabilitation des prisonniers. » Puis c'est un peu dur là, d'en parler parce qu'on tomberait largement dans les divulgateurs. C'est ça, j'ai trouvé que c'était OK, c'était intéressant, puis il y a des idées qui sont bien amenées, puis oui, c'est intéressant aussi de dire OK, est-ce que c'est lui qui a tué la mère de l'autre, puis bon. Mais c'est ça, on arrive à la fin du film, puis il se passe certaines choses, puis j'ai l'impression que la façon de se présenter, c'est que ça coupait le souffle aux deux trames narratives en même temps, et la façon dont c'est fignolé à la fin, c'est comme ça rentre pas dans le thème du personnage de Christine Beaulieu et pour le personnage de Lothar Buteau, l'espèce de quête personnelle, en tout cas, n'est pas complète non plus. Donc, je suis resté sur ma faim. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Là. Je ne sais pas toi...
Non, je suis d'accord pas mal là-dessus. Je pense que le climax du film, quand on tombe le plus dans le thriller, puis... Je comprends ce qu'il essayait de faire, mais je sais pas si c'est une question de manque de moyens, manque de temps, mais c'est un peu précipité, tu sais, c'est pas, tu sais, on n'est pas dans la grosse scène d'action, puis avec les guns, puis tout ça, c'est très très limité, puis même au niveau émotionnel, je sais pas si on atteint le sommet qu'on espérait. Par contre, j'aime beaucoup le dernier plan, dont on parlera pas évidemment, mais je trouve que le dernier plan est très beau, puis oui. Je trouvais que c'était une bonne note sur laquelle finir le film.
Ben, je trouve que l'utilisation, sans donner trop de détails, mais il y a une belle utilisation de la musique dans le film, utiliser les paroles pour transmettre des messages, puis pas juste comme trame sonore, mais vraiment, les personnages vont chanter, les personnages vont jouer de la musique, les personnages vont adapter des paroles. Je pense qu'à un moment donné, il y a une adaptation d'une chanson en langue autochtone qu'un prisonnier autochtone, on comprend là, que c'est son origine, traduit pour les autres prisonniers qui sont blancs. Et donc, c'est ça, on a cette idée-là de, OK, des chansons sur justement la deuxième chance, puis des chansons sur je veux plus que les choses se passent comme elles se sont passées. Puis tu comprends que ces gens-là, effectivement, t'sais, largement veulent s'en sortir, veulent progresser. Mais c'est ça, j'ai trouvé que j'aurais peut-être pris une demi-heure de plus. C'est rare, d'habitude, je dis l'inverse. Là. Le film dure trop longtemps, ça arrive à l'occasion. Mais là, j'aurais pris un peu plus de temps. Puis peut-être, comme tu dis, c'est une question de moyens ou de temps pour la production. Mais
je veux revenir sur la musique. Je trouve que c'est une des choses que j'ai le mieux aimé dans le film. Même si c'est sûr que il y a un petit côté un peu improbable. Je pense pas que dans une prison, si des tueurs font du karaoké, je pense pas qu'ils vont chanter du Safia Nolin. Tu sais, mais ça, ils vont plus chanter du, je sais pas, du Offenbach ou oui. Peu importe. Mais quand même, mais comme tu disais, tu sais, par rapport, je pense que les chansons qui sont dans le film, comme je pense qu'il y a une toune de Fred Fortin aussi à un moment donné, mm-hmm. les chansons sont choisies pour les paroles, pour les parallèles avec les thèmes du film, donc ça fonctionne quand même. Puis l'autre truc aussi que je voulais mentionner, qui est le fun, parce que ça nous fait sortir un peu du côté thérapie, le côté juste les dialogues, il y a régulièrement des scènes, je pense qu'on a mentionné un peu, de canots à glace, quand on est sur le fleuve avec les prisonniers qui font du canot, qui traversent la glace, puis tout ça. Puis, je trouvais que visuellement, c'était vraiment fort, ces scènes-là. C'était des bonnes ponctuations dans le film qui faisaient que, après, mettons, je sais pas, une dizaine de minutes de scènes de dialogue qui sont intéressantes quand même, mais un moment donné, ça faisait du bien de sortir dehors puis d'être dans quelque chose de plus physique. Puis aussi, c'est un film où que l'hiver joue un grand rôle, où on ressent vraiment l'hiver québécois. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que, tu sais, on voit plein de films, on peut voir des films américains, britanniques, français, peu importe, mais le côté hivernal, c'est quelque chose qui est quand même caractéristique du Québec. C'est le fun de voir qu'un cinéaste d'ici dit, bon, tu sais, tant qu'à avoir la moitié de l'année que c'est l'hiver, montrons-le à l'écran. Là.
Voilà. Oui, oui, absolument. Puis, j'irais même plus loin, l'hiver québécois, mais à Montréal, ben, généralement, on va parler, ben, généralement, j'ai pas vu tous les films québécois, c'est sûr, mais tu dis hiver québécois, ben, on peut associer ça à une maison ancestrale avec le poêle à bois. Tu sais, des trucs plus traditionnels, alors que Montréal, ben, ça va être la slush. Et oui, il peut faire froid, mais c'est un hiver un peu plus urbain, forcément. Mais là, on est à la fois dans un contexte urbain parce qu'on est dans la région de Montréal, parce qu'on est en prison. On s'entend-tu que, bon, la prison, c'est rarement bucolique. Mais on est dehors, on est sur l'eau. Puis, c'est ça, cette question-là de retour un peu à pas dire retour à la terre, mais tu sais, retour à quelque chose de plus traditionnel sans quitter, tu sais, sans dans les clichés, puis sans quitter la ville. Mais on est vraiment une place, et tu dis, bon, tu sais, il y a un mouvement pour récupérer l'accès aux berges, par exemple, à Montréal, parce que longtemps, ça a été, c'est encore largement le cas, bon, dans mon coin, par exemple. Si je vais aller dans le fleuve Saint-Laurent, ici, il faut que je traverse le port. Ils me laisseront pas rentrer. Il faut aller me baigner dans le fleuve à hauteur de chez nous. D'abord, l'eau va être dégueulasse, j'imagine. Mais c'est illégal. Tu peux pas, t'as pas l'accès. Mais c'est ça. Donc, cette idée-là de reprendre cet accès-là aux berges, de réutiliser ce cours d'eau-là que généralement on fait juste franchir en pont ou en métro, il y a vraiment quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Puis je pense que François Péloquin, le démontre très clairement, puis ça devait être des belles scènes à tourner aussi, parce que, bon, évidemment, je ne sais pas comment ils filmaient, mais elle devait être en canot à côté de du canot utilisé par les acteurs. Est-ce que les acteurs ont eu des cours de canot à glace? Est-ce que c'était justement des acteurs, quand ils étaient sur le canot, est-ce que c'était des gens qui étaient déjà formés?
Parce que moi, j'ai lu le générique à la fin, il y a quand même des doublures canot.
Okay.
Tu sais, parfois, on voit que c'est vraiment les acteurs dans le canot, mais je pense que pour certaines manœuvres, quand ils passent sur la glace, tout ça, puis qu'on voit juste des jambes puis des bras, il y a quand même des doublures des gens, des professionnels de ce sport-là, j'imagine.
Ben, tu sais, pour avoir fait un peu de bateau dragon à une certaine époque, c'est forçant. Ça prend... Je suis pas du tout professionnel, mais je peux comprendre que si t'es un acteur puis t'es pas nécessairement sportif, c'est de l'entraînement pas mal. Donc, je me dis, effectivement, t'embauches quelqu'un qui s'y connaît. Puis canot à glace, évidemment, c'est un obstacle de plus. Là, il fait froid, puis évidemment, physiquement, t'as ces glaces-là sur ton chemin. Est-ce que tu recommandes quand même la fonte des glaces?
Oui, je peux quand même le recommander. Surtout, tu sais, comme je dis souvent, je pense que ça dépend qu'est-ce qu'on recherche au cinéma. C'est sûr que, tu sais, si on veut juste voir les chefs-d'œuvre puis les grands films qui vont marquer leur époque, c'est peut-être pas le premier film à aller voir. Par contre, si on aime beaucoup le cinéma puis que chaque semaine on va au cinéma puis qu'on aime découvrir le cinéma québécois, je pense que c'est quand même une proposition intéressante qui vaut la peine d'être vue. Tu sais, c'est un bon film, on l'a dit plusieurs fois. On a certaines réserves, mais tu sais, c'est pas, il y a quand même des trucs assez intéressants. Si vous aimez Christine Beaulieu ou si c'est, vous vous ennuyez de l'auteur Bluto, ça peut être une belle occasion d'aller les voir dans ce film-là.
Oui, ben effectivement, je trouve ça intéressant, t'es, malgré bon les côtés qu'on a moins appréciés. Je trouve ça intéressant de voir que le cinéma québécois essaie des choses. Je pense que j'ai à peu près dit la même chose quand on a parlé de « Tu ne sauras jamais » il y a deux semaines avec Robert Aubert. C'est des films qui sont originaux, c'est des films qui sont différents. Tu sais, ça nous change. Bon, on fait des gags à répétition là-dessus, mais tu sais, c'est pas le gros film d'action un peu nono ou la comédie un peu nounoun qu'on nous sert régulièrement, bon, ou le film de super-héros ou quoi que ce soit. La petitesse de nos moyens, qui est une bonne et une mauvaise chose, dans ce cas-ci, une force à être originaux puis à se casser la tête pour avoir des idées qui sont différentes, pour justement se démarquer. Ce n'est pas le film de l'année, on peut le dire, mais film intéressant, comme on l'a mentionné. Puis, effectivement, si vous aimez, comme tu disais, si vous aimez Christine Beaulieu, si vous aimez Lothar Buteau, il y a plusieurs bonnes scènes entre les deux, puis il y a des personnages qui sont très intéressants là-dedans. Donc voilà, La Fonte des Glaces, c'est déjà à l'affiche. Donc si vous voulez aller voir ça en salle, sinon, éventuellement, peut-être que ça sera sur des plateformes de location. Bien sûr, on n'a pas d'informations à ce sujet pour l'instant. Ça devrait être annoncé peut-être dans les prochains mois, si vous voulez attendre. Mais voilà, en attendant, donc c'est en salle. Avant qu'on se laisse et avant que je vous fasse ma petite présentation habituelle sur le Patreon et sur l'infolette, est-ce que tu as quelque chose que tu as vu récemment? On fait pas ça très souvent comme segment, là, mais as-tu vu quelque chose ces temps-ci que tu as aimé ou que tu as moins aimé, télé, cinéma?
Je viens de terminer la saison 3 de C'est comme ça que je t'aime, qui est une série télé québécoise que j'adore. C'est la troisième et dernière saison. C'est la conclusion des aventures de ces espèces de couples québécois dans les années 70. Tu sais, moi, je trouve ça tellement drôle, cette série-là. Puis il y a un côté quand même cinéphile, même si c'est de la télé, je pense que si vous aimez le cinéma, ça vaut la peine de regarder une série comme ça, qui est vraiment bien réalisée, puis qui a plein d'idées, puis qui joue quand même avec les codes de différents genres. Tu sais, c'est un film, c'est une série policière, criminelle, tout ça, puis ça vaut vraiment la peine d'être vu. En ce moment, la saison 3 est sur tout.tv extra, il faut s'abonner.
Parfait. Moi, je suis en train d'écouter Shogun, la série télé, tirée du livre de James Clavell, qui est sorti il y a plusieurs décennies maintenant, qui raconte l'histoire, en fait, d'un pilote de bateau, pas un capitaine, mais bref, un membre d'un équipage de navire qui sera anglais. En fait, lui est anglais, mais peut-être pas le navire au complet, qui se ramasse au Japon en l'an 1600. Donc, à l'époque où le Japon, c'était à peu près pas connu, les Portugais étaient déjà là un petit peu, mais pour les Européens, pour les Occidentaux, le Japon, c'était une terre mystérieuse et exotique, ce qui est encore un peu le cas, peut-être. Mais bref, donc, ce type-là se ramasse là et, par toutes sortes d'événements, est un peu un prisonnier d'un seigneur japonais là-bas qui... le dit seigneur est de coïncider dans une espèce de guerre de succession. En fait, là-bas, ça s'appelle le Taiko, le dirigeant suprême du Japon est mort et son héritier est trop jeune pour régner. Alors, ce sont 5 régents qui dirigent en groupe. Et là, évidemment, il y a toutes sortes de tensions. La guerre s'en vient. Bon. Et sur ces entrefaits, donc, arrive cet anglais-là, ce personnage anglais-là, qui parle pas japonais. Trouve quelqu'un, lui parle portugais, trouve quelqu'un qui parlait déjà portugais au Japon, donc ils peuvent se parler. Et ce qui est très bien dans la série, c'est qu'au lieu de se parler portugais puis d'avoir des sous-titres, ils se parlent en anglais, donc il y a une espèce de petit tour de passe-passe. C'est intéressant, avec des acteurs qu'on a vus quelques reprises, là, surtout du côté des acteurs japonais. Mais ce que je disais dans le devoir là-dessus il y a quelques semaines, c'est que beaucoup d'acteurs japonais qui n'avaient jamais quitté le Japon, et ça, ça a été tourné à Vancouver pour des questions de budget, en tout cas dans le coin de la Colombie-Britannique. Et donc, ça aussi, c'est sortir un peu de son élément. C'est intéressant, à des moments donnés où tu te dis, bon, OK, le clash des cultures, on a peut-être un peu compris, mais en même temps, ça se passe en 1600, donc c'est pas comme si ça arrivait aujourd'hui. Il y a des valeurs qui sont différentes, certainement. Et c'est une série qui, bon, a pas le budget de Game of Thrones par épisode, et c'est pas ça qu'on lui demande du tout, mais c'est une série qui est quand même assez violente, il y a beaucoup d'action. Il y a des gens qui meurent. Il y a des, des combats au sabre, tu sais, bon, au katana, tout ça, des attaques. C'est assez violent. Donc,
si vous avez des ninjas?
Pardon?
Est-ce qu'il y a des ninjas?
Ben, il n'y a pas de ninjas. Parce que le cliché du ninja en noir, c'est que ça n'a jamais existé. Le ninja, normalement, ce que je comprends du ninja, c'est que c'est des gens qui ont l'air de rien. C'est-à-dire, monsieur, madame, tout le monde. Et dans ce sens-là, oui, il y a des assassins. Ça arrive au moins une fois, là, la saison n'est pas terminée. Il y a une assassine, je sais pas, qui essaie de tuer l'étranger, parce que là, il y a toute une guerre d'influence aussi pour avoir accès à l'étranger, entre guillemets, puis à ses canons, puis à tout ça. Bon. Et bref, Shogun, moi, je le recommande. Très intéressant, un bon rythme, pas trop rapide, pas trop lent, pas trop violent non plus, même si c'est, des fois, c'est un petit peu... ça gicle un peu. Mais voilà, donc... si vous voulez votre dose de Japon, Shogun, c'est une excellente suggestion de ma part. Kevin, merci beaucoup d'avoir été là pour parler de La Fonte des Glaces.
Merci à toi. Et on a eu un petit segment télé, c'est rare qu'on fait ça.
Oui, absolument. Ben, on va essayer peut-être de ramener ça un peu plus souvent, le segment un peu qu'est-ce qu'on écoute
ou
qu'est-ce
qu'on a vu.
C'est intéressant, puis évidemment, c'est, on passe pas non plus un autre 30 minutes réglementaire. Là, voilà. D'ailleurs, on a déjà dépassé notre limite, donc on va couper, non, pas le prochain épisode. Avant de vous laisser tout le monde, je vous parle de deux choses rapidement. D'abord, on a La Voûte. Si vous n'avez pas déjà entendu parler de La Voûte, c'est notre section exclusive. On fait des critiques de films comme toujours, mais des films qui ont marqué leur époque, donc pas des films contemporains, mais des films qui ont quelques années déjà un peu. Et donc, on revient sur ces films-là, leur impact, si on aimait ça, évidemment. Bon, il faut absolument passer par Patreon pour s'abonner. C'est 5$ par mois, vous avez accès à tous les épisodes qui sont déjà en archive. Vous avez aussi accès à un nouvel épisode par mois. Pour l'instant, ce qu'on a à vous proposer, c'est notre critique de la trilogie Batman de Christopher Nolan. Et on a aussi fait le film Sorcerer, donc qui est fait des années 70, qui est adapté d'un roman français qui s'appelait Le salaire de la peur, donc un excellent film d'action. Et donc, on vous offre, comme je disais, au moins un épisode de plus par mois, donc de ce côté-là. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, c'est aussi disponible à la pièce. Et en terminant, bien entendu, comme toujours, je vous propose de vous abonner à l'infolettre de Pieuvre. Ça vous donne accès à l'ensemble des contenus publiés sur le site, y compris, bien sûr, les épisodes de podcast. C'est gratuit et c'est envoyé chaque samedi matin. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.